Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les départements doivent pouvoir s'adapter à la crise sanitaire localement. Une méthode d'ajustement au cas par cas que revendique le gouvernement. Vous entendrez les arguments du Premier ministre et ceux de l'opposition, alors que le projet de loi pour prolonger les dispositions exceptionnelles est présenté ce matin en Conseil des ministres. Dans ce journal aussi, nous irons en Suisse où les députés du Parlement siègent dans des cages en plexiglas. L'idée est d'éviter les contaminations au Covid-19 tout en conservant les débats. Le Premier ministre israélien a signé avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn des accords de paix hier, accord dénoncé dans la foulée par les Palestiniens, mais il pourrait faire des petits, vous le comprendrez. Et puis nous vous expliquons comment Marion Maréchal pose des jalons pour s'opposer à sa tante Marine Le Pen. Marion Maréchal est très présente dans les médias en ce moment. Il doit permettre d'encadrer les rassemblements, de fermer des établissements, d'imposer des tests. Le projet de loi prolongeant de 6 mois les mesures exceptionnelles liées au Covid-19 doit être présenté ce matin en Conseil des ministres. C'est cet arsenal qui a notamment permis aux Bouches-du-Rhône, au Nord ou à la Gironde de prendre des décisions contraignantes ces derniers jours. Et c'est très bien ainsi, à en croire le Premier ministre Jean Castex, qui s'en est ému hier à l'Assemblée nationale.
Nous revendiquons cette méthode d'adaptation. Est-ce que c'est moi qui, depuis Paris, vais décider de la fermeture d'une classe dans le Calvados ou en Eure-et-Loire ? Nous fixons les critères nationaux, il y a des protocoles et leur application est locale. L'État d'aujourd'hui, c'est pas forcément un État qui décide tout depuis Paris. L'État efficace, c'est un État qui prend des mesures adaptées aux circonstances. C'est un État qui essaie de concilier la vie économique et sociale et la lutte indispensable contre la pandémie.
Des décisions au cas par cas, donc prônées par le Premier ministre Jean Castex, mais cela risque, selon l'opposition, d'entretenir une certaine confusion dans l'esprit des Français, Rosalie Lafarge.
Adapter les mesures au territoire en fonction des situations, personne n'est contre dans l'idée.
C'est une bonne chose à condition qu'il y ait de la clarté, de la cohérence et de la constance.
Malheureusement, elles ne sont pas au rendez-vous pour le patron des députés Les Républicains, Damien Abad.
C'est pas la différenciation entre les territoires qui entraîne de l'illisibilité. Ce qui entraîne l'illisibilité, ce sont les ordres, les contre-ordres, ce sont les changements de pied incessants et permanents du gouvernement. Comment peut-on, dans le même temps, dans les rues de Lyon, autoriser les spectateurs à venir autour de France et dans les pentes du Colombier à les interdire?
Et ces incohérences, elles risquent d'inciter les Français à ne pas ou ne plus respecter les consignes, selon Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste.
Évidemment, vous n'allez pas traiter de la même façon une zone rouge et une zone verte. Vous n'allez pas traiter de la même façon une zone rurale avec une zone hyper dense. Mais moi, je souhaite que dans la même situation, on ait des réponses identiques d'un bout à l'autre du pays. Sinon, vous allez finir par avoir des gens qui vont se dire « Mais puisque c'est différent d'un bout à l'autre de la France, c'est que tout ça se fait au doigt mouillé. »
Mais l'exécutif maintient pour maîtriser le front épidémique sans empêcher la reprise économique. L'approche doit aujourd'hui se faire au cas par cas, l'objectif étant d'éviter à tout prix un nouveau confinement généralisé.
Rosalie Lafarge. Ce qui inquiète les autorités, c'est surtout la hausse du nombre de personnes hospitalisées à cause du Covid-19 en ce moment. Il y a eu en une semaine 2700 admissions à l'hôpital, dont 479 en réanimation. 866 foyers de contamination par ailleurs sont en cours d'investigation, dont 68 identifiés en une journée hier. Parmi tous ces foyers de contamination, beaucoup se trouvent autour d'universités, après des soirées étudiantes en cette rentrée scolaire. À Toulouse, 127 étudiants d'une école d'ingénieurs ont été testés positifs au Covid-19. Une soixantaine d'étudiants l'ont été également à Montpellier. Des cours se tiendront donc à distance pour les 2 prochaines semaines. En Suisse, c'est le plexiglas qui aide les députés à débattre physiquement à côté des autres. Ils sont désormais entourés d'une cage de plastique pour les protéger des projections de leurs voisins, Jérémy Lanche.
Le président du Sénat en Suisse, Hans Stöckli, est assez fier des cages en plexiglas qui entourent chaque élu. Pas très convivial, mais efficace et indispensable, veut croire le parlementaire.
Le plexiglas nous évite la quarantaine. On ne se laisse pas tuer, ni notre société et surtout pas notre démocratie.
Au Palais fédéral, le masque n'est obligatoire que lors des déplacements. La mesure n'est pas seulement sanitaire, elle est aussi politique, explique la présidente de la Chambre basse, Isabelle Moret.
Clairement, du côté de la région qui parle allemand, où on a été beaucoup moins touché par la crise du coronavirus, si on avait obligé de porter le masque au sein du Parlement fédéral, Je ne pense pas qu'on aurait réussi à avoir une adhésion de leur part.
Dans leur grande majorité, les élus jouent le jeu, même si la vie politique suisse, qui est faite de compromis entre partis, s'en trouve un peu bousculée. Adam Hara, député socialiste du canton de Vaud.
C'est vrai que c'est un blocage. Ça ne remet pas en cause la démocratie, mais oui, c'est très certainement un peu restrictif.
Le plexiglas a en tout cas le mérite d'être bon marché. Équiper le Parlement aura coûté moins de 80 000 euros, bien loin des 3 millions dépensés cet été pour faire siéger les élus dans une halle d'exposition.
Jérémy Lange depuis Berne pour France Culture. Quelques mots de l'Inde également, puisque le deuxième pays le plus peuplé au monde vient de franchir la barre des 5 millions de cas de Covid-19. Historique. Hier à la Maison-Blanche, Israël a signé un accord de paix avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. Ajouté à l'Égypte et à la Jordanie, l'État hébreu entretient donc des relations officielles avec 4 pays arabes. Et à entendre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ce n'est que le début d'un processus vertueux au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump pense la même chose, Frédéric Mettezo.
5 ou 6 pays arabes prêts à normaliser leurs relations avec Israël, Donald Trump voit grand. Les experts israéliens en envisagent 3 ou 4, Oman, le Soudan et le Maroc, et à plus long terme, l'Arabie Saoudite. Ce serait alors une véritable bascule diplomatique avec la constitution d'un axe anti-Téhéran et économique avec des marchés prometteurs pour l'économie israélienne. Benjamin Netanyahou ou le directeur du Mossad ont déjà pris personnellement contact avec les officiels de ces pays, parfois éloignés d'Israël. En revanche, hier, le Premier ministre israélien n'a pas mentionné ses plus proches voisins, les Palestiniens. Cette paix va finir par inclure d'autres États arabes, explique Netanyahou, et l'ultime étape peut être la fin du conflit israélo-arabe. Mais paradoxalement, ses nouveaux amis pourraient l'obliger à rouvrir ce dossier israélo-palestinien. Hier, le ministre émirati des Affaires étrangères a remercié Netanyahou d'avoir stoppé l'annexion de territoires palestiniens, et celui de Bahreïn en appelle à une solution à 2 États.
Et le président palestinien réagissait hier soir à ce propos, estimant qu'il n'y aura aucune paix au Proche-Orient sans la fin de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens. Un rapport de l'ONU dévoile des exactions systématiques dans les régions kurdes occupées par les Turcs en Syrie. Les enquêteurs de la Commission indépendante internationale sur la Syrie décrivent une occupation turque marquée dans les zones kurdes avec des violations organisées des droits humains. L'Allemagne compte accueillir 1500 migrants venus des îles grecques de Lesbos, là où le camp de Moria avait été détruit par les flammes il y a une semaine. Hier d'ailleurs, les habitants de Lesbos ont décidé de crier leur colère. Ils disent leur abandon par le reste de l'Europe. Revenons en France à présent, où la rentrée politique de Marine Le Pen coïncide cette année avec le retour médiatique de Marion Maréchal. Depuis 2 semaines, la nièce de la candidate d'extrême droite multiplie les interviews et sa liberté de ton à l'égard du Rassemblement National surprend Antoine Maret.
Jusqu'à présent, Marion Maréchal se gardait bien de disserter dans les médias sur ses désaccords avec la ligne politique du Rassemblement national. Et pourtant, ces désaccords ne datent pas d'hier. Marine Le Pen s'accroche à sa ligne populiste, ni droite ni gauche. En 2017, entre les 2 tours de la présidentielle, elle va jusqu'à tendre la main aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Marion Maréchal croit, elle, en l'union des droites. Elle fait le pari que LR va disparaître et que le RN ne peut gagner la présidentielle qu'en récupérant les déçus de la droite qui ne veulent pas rejoindre le camp macroniste. Rien de très nouveau, si ce n'est que désormais, les choses sont dites par la principale intéressée. Le drame du RN, c'est sa difficulté de parler aux orphelins de la droite. Marine Le Pen ne peut pas gagner seule, ou encore, il est impossible de prédire l'affiche du second tour, comme un avertissement à sa tante qui est pourtant donnée finaliste par de récents sondages. Alors pourquoi de tels propos inédits ? L'élément déclencheur est sans doute la récente purge au sein du RN. Plusieurs proches de Marion Maréchal ont été écartés de la Commission nationale d'investiture. L'ancienne députée va d'ailleurs jusqu'à dénoncer l'attitude de certains membres du parti. « Je ne suis pas dans une croisade contre le RN, mais certains ORN sont dans une croisade contre moi.
Antoine Marette. Signalons aussi un nom dans la liste des représentants de l'Académie des Césars publiée hier, celui de Roman Polanski. Et ce, malgré les accusations de viol à son encontre et sa condamnation pour abus sexuels sur mineurs aux États-Unis. La journée s'annonce agréable aujourd'hui, mercredi. Un peu plus nuageuse, mais encore chaude, avec 18 degrés ce matin à Rennes, 20 à Lille et Paris, 21 à Lyon, 24 degrés ce matin à Nice. Cet après-midi, Météo France prévoit 25 à 31 degrés.